c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Zoom Radio, la radio Hit and Style en Dordogne avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre jardinerie Ast Vert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Dordogne sur mariemorin.fr.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Zoom Radio. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de cette deuxième émission de la rentrée, c'est une émission chargée en émotions qui nous attend avec dans un tout petit instant un hommage appuyé à Ariane du Club Dorothée qui nous a quittés la semaine dernière. On souhaitait absolument lui rendre hommage avec dans un instant un des musclés Bernard Minet qui sera notre invité exceptionnel pour parler de sa comparse à l'écran. Qu'est-ce qu'on a rigolé devant eux, qu'est-ce qu'on a pu passer de mercredi après-midi. On va évoquer tous ces souvenirs évidemment ensemble d'ici quelques instants. Et puis nous, on va passer en revue nos coups de cœur ciné de cette semaine. Ils sont deux, avec deux mois pour commencer, le film de Cédric Clapiche qui sera avec nous tout à l'heure, accompagné d'Anna Girardot et François Berléand. Deuxième coup de cœur ciné, c'est également eh bien, pour le film Tu mérites un amour qui a été primé au Festival du film d'Angoulême. Hafsa Herzi sera avec nous avec toute son équipe. Un rendez-vous à ne pas manquer. Les ces deux films sortent mercredi au cinéma. Julie Boulanger, la star de la série Cut, eh bien, fait son arrivée dans la série Ainsi Grand Soleil cette semaine. Elle sera avec nous pour parler d'Elsa, son nouveau rôle dans la série. Nous allons parler également du documentaire ici New York s'appelait Angoulême avec Florent Caillard, historien à la ville d'Angoulême, qui sera notre invité. Le documentaire sera diffusé ce soir sur France 3, NOA, Nouvelle-Aquitaine. Et puis on terminera l'émission évidemment spéciale Festival de la Fiction Télé. On va dérouler le programme ensemble de cette 21e édition avec Stéphane Strano. Mais pour démarrer eh bien tout de suite cette émission, on commence tout de suite avec notre hommage. Et ça, ça va vous rappeler des souvenirs. Écoutez. Ça a été le coup dur la semaine dernière. On démarre cette émission par cet hommage que je souhaitais rendre à Ariane. Ça a été tout un pan de mon enfance et de beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui écoutaient la radio en ce moment. Et on a la chance d'avoir Bernard Minet. Alors, c'était prévu que Bernard soit dans notre émission. Mais voilà, les circonstances font que Bernard était de passage dans notre région Nouvelle-Aquitaine la semaine dernière à la Foire Expo de La Rochelle, mercredi, pile poil le jour du décès d'Ariane. Bernard, la première chose que j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu gardes comme plus beau souvenir de toutes ces années, de tous ces moments passés avec Ariane, mais aussi avec tous les membres du Club Dorothée finalement?
Ariane, elle avait un peps incroyable. Elle était toujours de bonne humeur. C'était une pile, tu vois. Elle était toujours... Et son sourire, elle était dynamique. Donc, j'ai ce souvenir-là d'Ariane. C'était ma copine. Parce que voilà, on est arrivé là-dedans tout jeune ensemble, et c'était vraiment Ariane, un personnage incroyable à part qui voilà. Et tu sais, ça tombe mal, j'ai pas trop envie de parler des bons moments de rigolade qu'on a eu avec les musclés. Forcément, tu disais un qui a foutu la zizanie, c'est exactement ce qui s'est passé. On rigolait beaucoup. Je peux te dire que simplement, si tu regardes n'importe quelle photo des musclés, une pochette de disque ou une carte postale, ben les rires que tu vois, parce que c'est des rires, ils sont pas fins, tu vois. On pose jamais, c'est toujours, comme tu l'as dit, pendant la séance de photo, il y avait toujours une vanne, ça partait, c'était toujours un coup sur l'un, un coup sur l'autre, un coup sur l'un, et ça faisait rire tout le monde. Et ça, oui, moi j'ai observé ça. Il y a aucune photo où le rire du musclé est fin. Tu vois, tu peux regarder, et même les clips aussi, on est toujours à la rigolade, parce que on était costumés. Alors, ça fait toujours rire quand tu te costumes, tu sais, pour les copains, les potes, ils se moquent de toi. Enfin, et on jouait le jeu à fond. Et voilà, mais
vraiment. C'était dans la croisière Folamour. Hein. Vous avez vu les musclés, c'était pas triste hein, quand même, hein, du côté costume et délire.
Oui, c'est des délires, même dans les salles des musclés, c'est des délires. Avec une, grâce à une extraterrestre, on pouvait faire toutes choses dans les scénarios. Mais oui, oui, alors encore une fois, je parlais de ça. Tu vois, j'ai des frissons, beaucoup de frissons. On va arrêter de parler des souvenirs aujourd'hui.
Bon, en tout cas, la musique, elle est toujours là. Comment t'expliques, justement, toujours, cet attrait du public? Moi, j'y étais mercredi, j'ai vu les gens chantent par cœur les chansons. Est-ce que ça, t'es toujours étonné, épaté de voir des centaines de personnes qui, quand tu passes quelque part, viennent voir et chantent les Chevaliers du Zodiac ou Nicky Larson par cœur?
Mais parce que c'est important, c'est un souvenir en partant. Et puis je dirais aussi le son AB, ces morceaux étaient bien mixés, ces morceaux étaient efficaces, très efficaces. Et c'est pour ça que ça marche encore sur les enfants, ils sentent que c'est efficace, les mots sont simples. Je suis plus surpris maintenant, je sais que c'est important pour eux et comme pour moi. En fait, j'ai été surpris la première fois, Alain, quand la première prestation qu'on m'a appelé après le Club Dorothée, c'était mai 2000, il y a donc 19 ans.
3 ans après la fin de l'émission, donc.
Voilà, 2 ans et demi après la fin de l'émission. Et si tu veux, j'étais un peu surpris qu'ils m'appellent. Non, on veut faire les chansons de la chanson française. Et là, ils m'ont demandé de faire 10 minutes, tu vois. Et là, il y avait beaucoup de monde et tout le monde chantait. Et c'est là que je me suis pris pour Patrick Bruel parce qu'il chantait, tu vois, comme à l'époque, il chantait tout pour Bruel. Et voilà. Et après, ça a continué. Et puis, j'ai chanté aussi dans des endroits festifs où là, ils sont bien déchirés. Alors, ça chante aussi pareil. Dans ces endroits-là, j'ai vu des durs tatoués qui, je voyais même Juliette Je T'aime, tu vois, sur leurs lèvres. Tu vois qu'ils chantent Juliette Je T'aime. Ça, pour moi, ça a été les plus grandes récompenses, quoi. Parce que ils étaient enfants. Et là, malgré leur vie et puis malgré leur dureté, ben, ils ont conservé leur âme d'enfance. Et puis aussi, c'était important parce que, comme tu l'as dit, c'était un rendez-vous. On dit beaucoup que les enfants couraient après l'école pour pas rater le début de l'émission, tu le sais.
J'en ai fait partie.
Ouais, voilà. Je suis très fier parce que on a bien travaillé, c'était très professionnel. Dorothée, on avait la star Dorothée, notre chef, qui était irréprochable, qui travaillait beaucoup, qui travaillait à cette époque-là de 7h du matin à 1h du matin. C'est-à-dire que ça s'arrêtait pas, ça chantait, ça cherchait des idées, toujours. C'était énorme. Et donc voilà, grâce à Dorothée et grâce aux producteurs, voilà, il y a eu du bon travail. Et puis chacun, on était heureux de travailler là. Tu sais, quand tu es musicien ou danseur, par exemple, ou danseuse, ou comédienne, quand tu as du travail, c'est magnifique, tu vois.
Bernard, j'ai envie de te faire un cadeau. Est-ce que tu as une préférée parmi tous les génériques que tu as chanté?
Ah ben, on pose souvent cette question. J'ai beaucoup de tendresse pour tous. Je les aime tous, vraiment. Maintenant, je réponds toujours que la plus importante, c'est quand même Bioman. C'est celle qui a le plus marché. Ensuite, t'as les deux chansons des Chevaliers du Zodiac qui sont magnifiques, d'un beau dessin animé. Ken, c'est vraiment qui l'a chanté. Mais par contre, Ken, je l'ai mis dans mon prochain album. Je l'ai refait, j'ai fait la reprise. Ken, c'était Bernard Animal qui chantait ça. Et effectivement, pour la playlist du prochain album, là, qui sortira en janvier 2020. J'espère que ça passera.
Le rendez-vous est pris.
J'espère que ça passera. La radio.
Tu vas me donner les coordonnées et on va rester en contact. Janvier 2020, on fait une émission ensemble pour ça.
Et je vais t'envoyer l'album. Tu vas voir. Ça déboule. C'est magnifique. Donc, je suis très content. Maintenant, bah, tu vas passer, la chanson des chevaliers.
La chanson des chevaliers. Voilà. Allez, à tes ordres, on se dépasse tout de suite.
Marche en chantant, marche en riant, non?
Allez, voilà. La chanson des chevaliers, on revient tout de suite avec Bernard Minet dans Chute, on écoute la télé.
L'aventurer sur ton chemin, il suffit de tendre ta main en chantant ce petit refrain. En avant, chevalier.
Voilà, la chanson des chevaliers. Avec tous ces génériques, t'en as chanté combien, tu sais, à peu près?
Oui, on a compté, je crois, plus de 60, originaux, plus de 60. Et puis, je fais beaucoup de covers aussi. J'ai commencé par du cover. Et puis, j'en fais toujours des covers, c'est bien. J'avais fait un cover à l'époque, c'est pour moi qui chantais l'original, mais à l'époque, il y avait un label parisien qui a appelé Gérard Salès, le compositeur, et il a dit, je fais une compile de manga, je voudrais que Bernard Minet chante Pokémon. On était en 99, tu vois, 98. Et moi, j'étais content parce que j'ai dit, bah super, ça me fera un titre de plus pour les enfants, tu vois, un titre actuel, parce que le Club Dorothée était terminé depuis un an. Et figure-toi que cette chanson-là, je la faisais à l'époque, c'était un bide presque, et ça bougeait pas, les gamins ils comprenaient pas, trop jazzy, trop mise en place, trop truc. Alors que les chansons d'Abbé sont simplistes, simplistes mais très efficaces. Et si tu veux, donc, je le fais quelquefois dans mes galas pour les enfants à l'époque, et ça marchait pas, donc je l'ai enlevé. Et un jour à Toulouse, lors d'une convention, ça, là, on devait être, il y a peut-être 10 piges maintenant, tu vois, en 2006, quoi. Donc, longtemps après, tu vois. J'ai dit, tiens, je vais la retester, on va voir. Et là, c'est aujourd'hui, un des plus gros titres du tour, quoi, qui marche fort. Tout le monde adore. Et puis, la même histoire, Capitaine Flamme aussi. Capitaine Flamme, c'était un gros club branché en Suisse. Et j'ai fini, ça se passe très bien, tout, je finis, et puis je vais à la loge et le jeune directeur me suit. Ah, oh, mais t'as pas vu Capitaine Flamme. Donc je comprenais pas, j'ai dit, mais c'est pas moi Capitaine Flamme. Alors, mais c'est pareil, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit, tu sais, je dis quand même, un club comme ça a branché, le mec, il réclame Capitaine Flamme, quoi, tu vois, il réclame pas. Je te jure, c'est véridique, tu vois. Et donc je suis allé chercher, à l'époque, il y avait Chandisque ou Champs-Élysées. Et je suis allé chercher s'il y avait un bon karaoké de Capitaine Flamme. Et puis donc, j'en ai trouvé un, je l'ai acheté. Et je me souviens que le jeudi, j'ai fait une soirée étudiante à Orléans. J'en avais toujours. Il y avait 1200 personnes dans le bordel. Et là, à un moment, tiens, je vais faire Capitaine Flamme. Et là, c'est maintenant la chanson des plus forts de mon tour. Je la fais toujours. J'adore, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Jacques Debout. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Je l'adore, ainsi que Chantal. Et j'ai refait une version jazz de Capitaine Flamme, qu'il aime beaucoup, Jean-Jacques. Donc ça me fait plaisir et tout.
On reste en contact, Bernard. On se retrouve en début d'année pour la sortie de cet album. On s'en fera l'écho dans notre émission. Ensemble, on va essayer de monter un truc avec toi, en tout cas là-dessus, pour la promo de ce très bel album.
À condition que l'album te plaît beaucoup, sinon je le fais pas.
Mais bien sûr qu'il va me plaire, ça vient de toi. Donc comment veux-tu que ça me plaise pas?
On sait jamais, tu verras, ça va te plaire.
Bon, à très très vite. Merci d'avoir été avec nous pour cet hommage en même temps qu'on voulait rendre à notre inoubliable Ariane, si elle nous écoute, d'où elle est. On l'embrasse très très fort, ainsi que ses enfants et toute sa famille. Merci à toi d'être venu en parler, même si, voilà, je sais que c'est douloureux tout ça. Mais voilà, on est tous un peu bouleversés par cette nouvelle. À très bientôt, on va se quitter avec Bioman. Tiens, allez, pour le plaisir. C'était rouge, rose, jaune, vert et bleu.
Rouge, rose, vert, jaune ou bleu.
Voilà, c'est ça, ils étaient cinq, les Bioman.
T'es fort.
Allez, merci. On se quitte, merci Bernard, à très vite.
Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros.
Dans un instant, l'équipe du film Deux Mois débarque dans Chute en écoute à télé. Alors surtout, ne bougez pas, on revient dans 3 minutes, à tout de suite.
Bouge pas, Chute en écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Chute en écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné cette semaine dans Chute, on écoute la télé. Et notre coup de cœur, eh bien, c'est le film Deux Mois, le nouveau film de Cédric Clapiche qui sort mercredi dans les salles. Et justement, Cédric est avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu accompagné de son héroïne, Anna Girardot. Bonjour Anna.
Bonjour.
On a toujours plaisir à retrouver, qui est une habituée presque de l'émission et voilà, une actrice qu'on adore, donc je tiens à le souligner. François Berléand aussi, qui est un habitué de notre émission, a eu déjà 3 ou 4 fois, donc là aussi c'est presque un sociétaire.
Eh oui, merci.
Merci d'être avec nous, François.
Merci et bonjour.
Bonjour, cher François.
Bonjour à Sud-Aquitaine.
Voilà, bonjour à toute la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, qui nous écoute. Alors, on va planter un petit peu le décor de 2 mois pour commencer. Cédric, en quelques mots, on va parler de Rémi et Mélanie. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut en dire, Cédric ?
Ce sont 2 personnes de 30 ans qui sont célibataires à Paris et donc ils cherchent à rencontrer quelqu'un. Et comme l'a dit Anna tout à l'heure, en fait, c'est eux-mêmes qu'ils vont rencontrer au cours de ce film. Et donc voilà, c'est sur comment des gens qui ne vont pas bien vont pouvoir aller mieux pendant cette histoire-là.
Alors, une histoire qui montre assez bien la solitude que peuvent avoir effectivement les célibataires parisiens, mine de rien. Et c'est en observant justement cette solitude de quelques Parisiens que vous est venue cette idée, Cédric ?
Oui, mais ça concerne pas que les Parisiens. Il me semble que ça existe même en Aquitaine. Je connais 2-3 personnes qui se sentent seules en Aquitaine. Non, mais c'est vrai que c'est juste pour parler de notre époque plutôt. En fait, c'est notre époque. On a l'impression qu'on est beaucoup entouré, mais en fait, il y a beaucoup de gens seuls et qu'on est dans une période où on pense qu'on est très connecté, qu'on est en relation avec les autres, et qu'en fait, il y a aussi de la solitude. Donc, c'est pour parler de ce paradoxe de notre époque.
Alors, le rôle de Mélanie est brillamment interprété par Anna, le rôle de Rémi par François Civil, qu'on adore évidemment, qui avait déjà signé un très beau film au printemps, Mon Inconnu. Et là, c'est encore dans un très joli duo. Alors, on va suivre un petit peu le parcours de ces 2 héros de ce film, pour le coup. Mais toi, quand tu as pris connaissance sur le papier de Mélanie, tu t'es dit quoi, Anna ?
Je me suis dit qu'elle me faisait penser à plusieurs copines à moi et un petit peu à moi aussi finalement, qu'elle ressemblait à une jeune femme d'aujourd'hui qui se cherche, comme si aujourd'hui on nous avait donné vraiment le choix de beaucoup de choses, que ce soit notre métier, notre vie amoureuse, notre vie, le lieu de notre vie. On a le choix de tout et donc parfois on est un petit peu perdu et on ne sait plus exactement quoi choisir et qu'est-ce qui nous correspond. Et en plus on se retrouve avec des applications, des réseaux sociaux, des espèces de algorithme donné qui nous amène à rencontrer telle ou telle personne ou à faire telle ou telle chose. Et Mélanie, c'est une jeune femme comme ça qui a du mal à savoir exactement qui elle est, ce qui lui a porté préjudice dans sa précédente relation où elle s'est complètement abandonnée à l'autre et en lui donnant tous les droits et qui s'est jamais validée elle-même. Et ça, c'est ce qui m'a touchée chez elle parce que je me suis reconnue là-dedans et pendant le tournage notamment, j'avais plein de copines qui vivaient exactement les mêmes problématiques que Mélanie et je me suis dit, ah c'est chouette, enfin un film où je sais que mes copines vont pouvoir aller voir et répondre à des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser parce que aussi il faut aller bien, il faut montrer qu'on va bien et
tout va tellement très vite.
Et tout va très vite, exactement. On a besoin de l'information immédiatement, on a besoin de dire les choses très vite. On est tous sur une espèce de timing donné et puis il faut choisir, il faut faire des choix de vie et puis espèce de panique comme ça un petit peu et qui notamment qu'on voit dans les grandes villes et qui peut un peu perturber et puis isoler quelquefois et c'est un film qui est touchant parce que c'est pas parce qu'on va mal qu'on peut pas aller mieux et c'est pas parce que on va mal que c'est mal et voilà.
Et voilà, c'est bien dit. Bon, je sais pas si c'est la première fois que tu pousses la chansonnette dans un film, mais on va y revenir aussi dans un instant. Parce qu'il y en a qui chantent dans la douche et il y en a qui chantent dans le bain. Mais ça, on va y revenir. François, alors là, qui joue le rôle d'un psy au bord de la retraite, c'est le cas de le dire. Un psy extrêmement touchant, qui donne en tout cas envie de beaucoup se confier.
Oui, bah il est écrit comme ça. Hein. Il est touchant parce que c'est écrit comme un personnage touchant. Mais c'est vrai que mon patient, Rémi, est tellement... a tellement de problèmes et lui est dans une vraie solitude, c'est-à-dire qu'il c'est un provincial qui arrive à Paris, il connaît strictement personne, au contraire de toi qui a quand même des amis. Donc à un moment donné, il va dire des mots et puis évidemment le psy va dire ah tiens il a dit ça, pourquoi etc. Donc c'est un jeu de moi que j'aime beaucoup. J'ai vu beaucoup de psy dans ma vie, de petit à vieux, donc je suis capable de comprendre ce que c'est qu'un analyste et en l'occurrence un psychothérapeute. Et l'écriture du film m'a énormément plu, l'écriture du psy, parce que c'était c'est quelqu'un qui rebondit très vite sur des choses et surtout il ne juge pas, et ça c'est important. Il n'y a pas de jugement, il y a simplement ah tiens vous avez dit ça et ça et ça et ça et puis voilà, et lui il se corrige de tout seul. Ce que j'aime dans le film, c'est que la présentation des personnages est tellement longue, puisque c'est tout le film, on présente deux personnages, que tout d'un coup, le spectateur, à la fin du film, on se dit, oh bah, faut quand même. C'est comme si on était amis de ces deux-là et de se dire, tiens, bah, je vais te présenter quelqu'un, il va beaucoup te plaire. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film.
Bon, on va écouter tout de suite la bande-annonce. En tout cas, une chose est sûre, Cédric, c'est que ces deux personnages vont se tourner autour tout le long du film sans se connaître et se rencontreront-ils, en tout cas? C'est toute la question qu'on se pose durant tout le film. Alors, on va y revenir dans un instant, mais tout de suite, voici la bande-annonce de Moi, ça sort mercredi au cinéma.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il n'a pas parlé pendant une heure. Ah, si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse? Tu te rappelles pas tourner, hein?
Karine, tu vas attraper Karine Pélisson.
Ah, elle est grande.
Non, elle est grande.
D'accord, alors...
Brune, elle avait les... Tu sais, elle avait les...
Ah, des boucles, elle...
Non, les...
Ah, des dreads.
Non, des soucis dans sa tête.
Ah, mais ça, c'est pas vous, ça.
Ah bon? C'est quoi, moi, là?
Il est à pesto, il est à pesto.
Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème.
Deux mois, ça sort mercredi au cinéma. C'est le film qu'il vous faut absolument aller voir de cette rentrée. Cédric, quelques mots sur le choix de ce couple de héros, pour le coup, sur Anna et sur François. Ça a été évident, les deux, tout de suite.
Je me suis demandé qui sont les plus mauvais acteurs de France en ce moment et je suis tout de suite tombé sur François Civil et Anna Girardot. Non, c'est forcément, quand on fait un film, on est obligé d'avoir du désir, du désir pour les acteurs. Donc là, on venait de faire Ce qui nous lie et j'avais très envie de retravailler avec eux. Et donc c'est assez naturellement que je me suis dit ça serait bien avec eux deux. Au début, je me suis dit ça va être compliqué parce que au début du film, ils vont très mal et je me suis dit ça va être difficile de croire que Anna Girardot et François Civil vont mal. Et donc il y a eu un travail vraiment d'acteurs de leur part pour être moins solaire, je dirais, pour être moins bien dans leur peau qu'ils sont dans la vie. Et donc il y a eu un travail là-dessus, mais heureusement c'est des bons acteurs, donc ils sont assez crédibles sur ce côté un peu ils vont mal au début.
Il y a des moments où on souffre avec eux, hein. Voilà, il y a des moments, voilà, ça va bien. Ça fait quoi de tourner avec un chat et de pousser la chansonnette dans un bain, Anna?
Alors,
c'est vraiment toi qui chante?
Oui.
Ouais. Bah, c'est bien.
Non, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Mais Cédric m'a dit « chante faux ». Donc, je me suis dit « écoute, je vais faire un effort ». Ça va être un petit peu dur, mais c'est génial quand quelqu'un dit à tout le monde « elle va chanter faux » et qu'on peut vraiment réellement chanter faux sans aucun problème, sans retenue. Et le chat, par contre, moi, j'ai eu un gros problème parce que il était adorable avec François Civil. J'arrive le lundi, François me dit « mais le chat, tu vas voir, il joue, il reste avec toi, il est mignon, il fait des câlins et tout, ça, génial ».
Ça a été une teigne.
Moi, il est arrivé, il m'a fait pipi dessus. Ensuite, il m'a griffé. Je suis en plus allergique au chat, donc j'ai commencé à gonfler.
Il l'a senti ?
Ah non, mais c'était affreux. Et donc, du coup, je me suis dit que voilà, qu'il avait des préférences de partenaire et que c'était un chat très difficile. Et que... Enfin bref, le chat, quoi.
Voilà, une histoire de chat, vous verrez, voilà, il y a quelques jolies scènes. François, meilleur souvenir de tournage, on va terminer par ça ?
Eh ben, mon meilleur souvenir de tournage, bizarrement, c'était pas le tournage. C'était la répétition qu'on a eue avant, parce que c'est très rare de répéter avant de tourner, et la répétition qu'il y a pu y avoir avec François dans ton bureau, où tout à coup on était d'accord sur tout, enfin on était d'accord, ou pas d'accord d'ailleurs, mais on a dit les choses, et en sortant de ce moment-là, ça a été un moment pour moi très très privilégié, je me suis dit je sais comment je vais jouer le rôle. C'est rare de savoir avant comment on va jouer un rôle.
Et dernière question, Cédric. Comment on se sent à deux jours de la sortie?
En fait, j'ai juste envie que ça sorte, en fait. C'est-à-dire que, bizarrement, moi, les gens me parlent souvent de « est-ce que vous êtes angoissé ?» tout ça. Moi, je suis pas angoissé, j'ai juste envie que ça sorte. En fait, on fait du cinéma pour que les gens voient le film. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec le public. Et je suis évidemment curieux de savoir si les gens vont aller le voir. Mais c'est plus du côté du plaisir que du côté de l'angoisse, de mon point de vue. Donc, j'ai envie qu'on soit dans deux jours, quoi.
Vous assurez que vous allez prendre beaucoup de plaisir en tout cas à aller voir ce film. Deux mois, ça sort mercredi au cinéma et c'est ce film de la rentrée qu'il ne vous faut pas rater cette semaine dans les salles. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, dans nos coups de cœur télé cette semaine, eh bien, on va tenter de répondre à cette question ensemble. Et si New York s'appelait Angoulême ? Alors évidemment, Angoulême, dans notre région Nouvelle-Aquitaine, hein, ça vous fait penser à notre belle ville de Charente. Eh bien, on va répondre à cette question ensemble avec Florent Gaillard. Avec cette question qui, moi, m'a paru totalement saugrenue au départ. Et après avoir vu ce magnifique documentaire, eh bien, il nous a beaucoup éclairé. Bonjour Florent.
Bonjour.
Alors, d'où vient cette idée complètement folle que si New York s'appelait Angoulême, comment vous avez découvert ça, vous qui êtes historien de la ville d'Angoulême ?
Tout simplement sur des sources, donc des documents, des manuscrits, des publications, des imprimés, des thèses universitaires qui ont été publiées il y a relativement peu de temps, puisqu'on a redécouvert cette histoire qui associe Angoulême à New York en 1949, lorsqu'un historien, un sénateur, Jacques Habert, qui était professeur au lycée français de New York, a soutenu une thèse à Columbia, quand New York s'appelait Angoulême. Donc on a redécouvert cette histoire, en gros, si vous voulez, il y a 60 ans.
Alors, vous êtes parti du coup à New York, à la rencontre de beaucoup de personnes qui puissent témoigner, dont une ancienne élève de Jacques Habert, et vous avez découvert encore plein de choses, vous avez pu aller sur des sites particuliers qui pouvaient faire référence à la ville d'Angoulême, et vous vouliez vérifier si effectivement cette thèse était vérifiable, et surtout et si elle était vraie. Alors, qui avez-vous trouvé, en tout cas, à New York ?
Alors, on a trouvé beaucoup de choses à New York, beaucoup de documents à travers des bibliothèques, à travers des cités universitaires qui nous rapportent cette histoire, aussi bien des musées également avec des conservateurs et comme vous le dites très justement, des anciens élèves de Jacques Habert, Jacques Habert ayant été professeur au lycée français de New York, et il ne parlait que de ce sujet quand New York s'appelait Angoulême. Donc, ses élèves se souviennent très bien de cette histoire, et en plus, une partie des sources, c'est-à-dire les références historiques qui permettent d'avoir la vérité sur ce sujet, se trouvent à New York aujourd'hui. Alors, je vais pardonner un exemple, par exemple la Morgan Library, qui est une magnifique bibliothèque où JP Morgan avait rassemblé des centaines de milliers de volumes d'imprimés, mais aussi de documents rares, de manuscrits. Et justement, parmi ces documents exceptionnels, il y a la copie d'une lettre de Verrazzano, un grand navigateur envoyé par François Ier, qui parle de sa découverte du site de New York en 1524 et qui dit baptiser ce lieu Angoulême en hommage au roi de France, qu'il avait envoyé donc sur les mers, qui était comte d'Angoulême. C'est pour ça que New York s'appelait Angoulême, parce qu'on disait que François Ier, en fait, s'appelait avant François d'Angoulême. Donc on baptise tout simplement le lieu du nom du roi.
Sur place, moi, ce qui m'a surpris dans le documentaire, ce que vous verrez d'ailleurs dans ce documentaire, c'est que pour aller dans cette bibliothèque, pour vérifier un peu tout ce manuscrit, tous ces dires, mais il faut montrer, c'est plus que patte blanche là. Comment vous avez fait, Florent, pour pouvoir arriver déjà, ne serait-ce qu'à rentrer, et une fois qu'on vous montre le manuscrit, vous n'avez même pas le droit d'y toucher, juste de lire. Pour pas abîmer, je suppose.
Alors, pour approcher un manuscrit de cette qualité exceptionnelle, c'est pas seulement moi qui ai travaillé, mais Marie-France pendant, je dirais, de longues années, avec des intermédiaires aussi sur place, pour obtenir le droit de voir le document original. Beaucoup montrent la copie. Mais nous, on voulait voir, bien sûr, le document, le manuscrit original de la main de Verrazzano. Ça a été une œuvre difficile, je sais, pour Marie-France. Donc, moi, j'y suis pour rien. J'étais extrêmement ému, bien sûr, de voir ce document. Et vous l'avez remarqué dans le film, vous allez le remarquer, évidemment, des mesures importantes sont prises pour qu'on ne touche pas le document. Il faut se laver les mains, il faut enlever son manteau, il faut signer un document comme quoi, voilà, on a consulté ce document, il ne faut pas le toucher. Et voilà, il y a un certain nombre de choses, de précautions à prendre, parce que ce sont des manuscrits exceptionnels. Et la Morgan Library conserve comme ça des œuvres inimaginables. Je pense bien sûr à des bibles de Gutenberg, par exemple, qui sont merveilleusement conservées. Et ce qui est amusant, c'est qu'en découvrant justement ce manuscrit de Verrazzano, on a aussi trouvé dans la bibliothèque des éditions originales des ouvrages de Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. Je pense à la Marguerite de la Princesse. Ça montre que ces milliardaires américains du début du XXe siècle avaient vraiment le cœur de constituer des bibliothèques, des musées avec un fonds européen exceptionnel. Donc aujourd'hui, finalement, une grande partie des sources qui nous prouvent que New York s'est appelé Angoulême, eh bien, elles sont à New York.
Il n'y a absolument quasiment aucune trace de ça ici à Angoulême.
Alors, Angoulême, nous avons relativement peu de traces. Ce que nous avons quand même, c'est quand même les bases, c'est-à-dire le château des Valois, tout de même, l'hôtel de ville, qui était le château de la famille de François Ier. Vous savez qu'il était comte d'Angoulême, donc il était évidemment ici chez lui. Il reste un certain nombre de choses dans notre cité, même le tombeau de ses aïeux, de son père, de son grand-père, dans la cathédrale d'Angoulême. Il reste quelques éléments de la Renaissance. Nous avons surtout des éléments d'architecture, au fond, voilà. Et des manuscrits, bien sûr, des Valois, des lettres patentes signées François Ier, des lettres de sa mer, mais voilà, mais moins de choses qui touchent New York, Angoulême, voilà, mais plus bien sûr sur les Valois. Donc les deux se complètent et donc justement dans le documentaire, je vais à la recherche de ce passé à travers les rues d'Angoulême, à travers son histoire, et j'essaie de trouver des choses, voilà, et j'en trouve quand même quelques-unes. Et puis après, je me décide à partir à New York, et là, c'est vrai que voilà, c'est une aventure.
Alors, à quand le jumelage entre New York et Angoulême maintenant ?
Alors là, ça ne relève pas évidemment de mon rôle de directeur des archives, mais plus du rôle des politiques.
Donc, Xavier Bonnefond, si vous en entendez.
Voilà, bien sûr, monsieur le maire d'Angoulême. J'ai déjà eu le plaisir de l'accompagner à New York il y a quelques années pour faire une conférence auprès des associations francophones de l'ONU, justement sur ce sujet. Donc voilà, maintenant on essaie toujours de relier ces deux cités. Et c'est absolument incroyable de penser que voilà, notre vieille ville d'Angoulême, cité de la vieille Europe, voilà, a donné son nom à cette ville merveilleuse qui est New York. On l'a un peu oublié du côté français, mais aussi beaucoup du côté américain. Donc je pense que le documentaire va être là pour rappeler cette histoire vraie.
Alors je rappelle la diffusion de ce très beau documentaire réalisé par Marie-France Brière avec vous, Florent. Eh bien, ça sera ce soir à partir de 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, France 3 NOA. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci à vous d'être venu nous en parler dans Chute, on écoute la télé, et à très vite.
Merci beaucoup à vous.
L'historien que je suis est un peu frustré de voir le peu de choses qui subsistent ici à Angoulême de cette histoire. Alors, il me prend à rêver, penser à une sorte de serment du musée du papier, partir jusqu'à New York et essayer de trouver les vraies traces de cette histoire si absente ici.
En train d'abord jusqu'à Paris, puis en avion, j'ai la folie d'accomplir ma propre traversée au long cours dans le sillage de Verrazzano.
Allez, on va reparler d'un si grand soleil cette semaine dans Chute, on écoute la télé, avec une nouvelle arrivante et qui nous fait bien plaisir, nous, puisqu'on la connaît très très bien. Dans notre émission, c'est Julie Boulanger. Salut Julie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Chute, on écoute la télé. Nouveau personnage, le personnage d'Elsa, qu'on va voir débarquer cette semaine, qui va mettre un petit peu la zizanie, enfin du moins au début. Et on va découvrir que tu es la petite amie de Manu Léoni, qui va avoir sauvé sa fille.
Oui, il va tomber sous mon charme. Enfin, ou l'un ou l'autre, je ne sais plus. Je vais aider sa fille, je débarque comme ça. Mais mon personnage est absolument génial parce qu'elle est très, très indépendante, très sûre d'elle, fermée, mystérieuse, rayonnante. C'est un mix de tout ça, donc je suis très contente.
Un peu rentre-dedans quand même, hein ?
Oui, très rentre-dedans, ouais. Pince sans rire, qui n'a pas peur de rentrer dans les gens, ouais.
Comment t'es arrivée sur cette aventure ?
Eh bien, grâce à Johanna Delon, la casting, qui a pensé à moi pour ce rôle, et puis aussi à Thomas de Matteis, qui est producteur dessus, que j'ai connu il y a très longtemps dans Sous le Soleil, et voilà.
Ils se sont dit, ça y est, Cut, c'est fini, Julie est libre, on y va, c'est le moment.
Exactement, ça y est, on a fini la saison 6 de Cut, donc on part sur de nouveaux projets, ça fait plaisir.
Quel regard tu portes, parce qu'il y a beaucoup de fans de Cut, quel regard tu portes sur ces 6 ans d'aventure ? Ces 6 saisons, alors t'as pas été présente dans les 6, hein, mais t'as été présente une bonne partie quand même.
Ah bah oui, bah c'est mon petit bébé, Cut, hein. Quel regard, une aventure extraordinaire, une aventure humaine. J'ai beaucoup appris en tant que comédienne et avec des rencontres merveilleuses. La Réunion me manque, hein. Ça faisait 6 ans que je partais au mois de mars à La Réunion, j'ai eu un petit pincement au cœur. C'était un peu dur, on garde toujours contact avec tous les techniciens de là-bas, qui sont devenus des amis, et voilà, ça fait partie de ma vie.
Tu vas retrouver des amis aussi, j'en suis sûr, sur un si grand soleil, tu vas retrouver des connaissances. C'est à peu près certain, vu le nombre de comédiens qu'on a sur la série.
Oui, je suis le numéro 206.
Oui, comme la voiture.
Il y a déjà eu 206 comédiens avant moi. Donc oui, c'est absolument génial pour nous d'avoir des productions comme ça qui ont besoin de nouveaux un peu tout le temps. C'est important.
Quand tu as passé le casting, tu as regardé un petit peu la série pour voir ce que c'était, ou est-ce que tu as regardé déjà depuis le début peut-être ?
Non, je suivais pas
assidûment,
mais j'ai regardé pour découvrir un peu les personnages, savoir où est-ce que j'allais, pour regarder Moïse aussi, pour le découvrir, qui allait devenir mon partenaire. Et puis
ça va t'es gâté.
Ouais, je crois.
C'est un gars bien, notre Moïse Santa Maria. On l'aime bien, notre Manu Léoni.
On l'aime bien.
Dans une série à 4 millions de téléspectateurs, ça n'empêche.
Oui, alors ça, je vous avoue, je fais pas trop attention à ça, mais tant mieux, ouais, c'est génial que ça marche comme ça.
Le regard va changer, parce que là, t'es là pour au moins 2 mois. Alors, et plus c'est affinité, bien évidemment, on le sait, hein, dans ces séries-là, tout peut changer très vite, mais tu vas voir le regard changer, effectivement, sur une quotidienne, ce que ça peut donner. Tu l'as déjà vécu sur Sous le Soleil, tu l'as vécu aussi sur Cut, mais là, ça va peut-être
Bah, je l'ai vu déjà sur DNA parce que j'avais l'année dernière j'ai fait Madame Beltrame où j'ai tourné une vingtaine d'épisodes et déjà j'ai vu la répercussion qu'elle était.
Oui, t'avais reçu d'ailleurs.
Ouais.
La prof dans sa baignoire.
Exactement, c'était la première fois que je faisais un suicide où je mourais à l'écran en fait, c'était assez drôle à faire. Et oui, en effet, je vois bien l'impact des quotidiennes. Mais bon, j'y suis plutôt habituée, ça fait longtemps que je tourne.
Bon, on va en reparler évidemment, je suppose, on se reverra très vite. Ainsi grand soleil, l'aventure ne fait que commencer, en tout cas pour toi. Et ça débarque cette semaine, vous allez découvrir Elsa, le nouveau personnage qui va être la petite amie de Manu Léoni. On est bien content parce que on le voyait célibataire, le pauvre, donc voilà. C'est très bien comme ça. Merci à toi Julie.
Merci beaucoup.
Et on te dit à très vite.
À très bientôt.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, deuxième coup de cœur cette semaine cinéma avec Tu mérites un amour qui sort mercredi dans les salles avec Avzia Herzi qui est avec nous, qui a écrit et qui joue le rôle principal du film. Bonjour Avzia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci à Janice Bouziani qui est avec nous. Bonjour Janice.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous. Anthony Bajon. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Et Myriam Djeldjeli. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour parler de ce film. Avzia, est-ce que c'est pas trop dur déjà, première question que j'ai envie de poser à la réalisatrice et comédienne, d'être devant et derrière la caméra?
Oui, non, ça a été parce que c'est une passion. J'ai pas réfléchi, j'ai foncé, il fallait, parce que de toute façon c'est un film autoproduit, donc c'est vrai que j'avais, on va dire, pas trop le choix de faire ça, donc non. Franchement, non. Et j'étais très, très bien entourée, donc voilà.
Comment a germé l'idée du sujet et surtout aussi après la difficulté qu'on peut avoir à monter un film autoproduit, comme tu le disais?
Ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire une histoire qui parle d'amour, de traiter de la complexité des rapports hommes-femmes, du rapport au corps, enfin de tout ça. Donc voilà, c'est né aussi de mon observation des rapports hommes-femmes, enfin de, on va dire, de petites enquêtes autour de moi, autour de l'amour. Et voilà, c'est né de ça en fait.
Combien d'années de travail pour arriver aujourd'hui à la sortie du film, là maintenant, dans deux jours?
Alors on va dire que tournage, montage, post-production, on va dire 10 mois intenses.
Plus la préparation avant, j'imagine, l'écriture, etc., tout quoi.
Oui, la préparation elle a été assez courte, en tout cas la préparation du tournage, parce que ça a été vraiment décidé, on va dire, un peu du jour au lendemain. Et en 3 jours, j'ai pris la décision, 3 jours après on était en tournage. Le scénario aussi s'est écrit assez rapidement, oui.
Ça rigole pas. Anthony, elle est comment, Avzia, en tant que réalisatrice?
Bah, elle sait ce qu'elle veut, elle cadre les choses, donc du coup on a une certaine liberté mais dans un cadre bien précis, donc c'est super pour un acteur de s'épanouir sous la caméra d'Afsia.
Myriam?
C'était super, sa rigueur, sa bienveillance, voilà, c'est très bien passé.
Janice?
Bah, elle est intransigeante et elle est pleine d'amour en même temps, elle sait avoir la bonne balance entre la dureté et l'amour en fait.
Bon, Avzia, on va planter le décor un petit peu avec toi, l'histoire de Lila. Raconte-nous un petit peu, voilà, comment on démarre cette histoire d'amour.
Oui, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui, on comprend dès le début du film, qui se rend on sait pas où elle est, elle marche dans la rue. Enfin, j'avais vraiment envie de commencer le film directement, c'est-à-dire sans générique, sans nom, sans machin. Voilà, commencer direct, on est dans le film. Donc ça commence par, c'est un plan de dos d'une fille qui marche dans la rue. On sait pas trop où elle est, ce qu'elle cherche. Elle arrive à rentrer dans l'immeuble, elle écoute aux portes, elle redescend, elle attend devant l'immeuble. Donc on comprend qu'elle attend quelqu'un. Et là, un jeune homme apparaît, donc son ex-compagnon, mais en même temps on sait pas vraiment si c'est des ex. Leur histoire elle est pas complètement terminée.
On va le voir tout au long du film d'ailleurs, ouais. Qu'elle est peut-être pas complètement terminée. En gros, ça commence par une infidélité, une rupture. En quelques mots.
On est tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, on comprend que elle a été, on va dire, plus ou moins trompée, mais en même temps, on ne sait pas si vraiment ils étaient encore ensemble ou pas, parce qu'on comprend que il lui a demandé d'avoir un peu de temps pour lui. Donc voilà.
On va écouter tout de suite la bande-annonce. Tu mérites un amour. Ça sort mercredi au cinéma, et on revient juste après avec Myriam et Janice pour vos rôles à vous. On écoute.
Ça, c'est pas l'amour. C'est malade, quoi.
Ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
L'amour, c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur.
Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit?
Une raclure comme lui, là. Tu te fais du mal pour rien, on dirait que t'aimes bien. Lâche l'affaire.
Je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi. Je vais partir en Bolivie, voilà, pendant 3 semaines.
Le vrai truc, c'est que tu l'oublies, c'est con à dire, hein, et que tu tombes amoureuse ailleurs.
Ça te dirait de prendre mon numéro, on va boire un verre, quelque chose. T'as déjà été amoureuse ?
Ah bah oui.
Comment tu le sais ?
Voilà, bande annonce. Myriam, en quelques mots, on va parler de ton rôle.
Alors moi, mon personnage, donc, c'est Myriam, et c'est l'ex de Lila. Donc elle interfère dans la relation entre guillemets entre Lila et Rémi et je vous laisserai découvrir.
Voilà. Et toi, Janice, donc ?
Je suis Ali, le meilleur ami d'Afsia dans le film. Je suis celui qui l'amène à une certaine résilience tout au long du film et qui lui montre que dans toute cette obscurité, il reste de la lumière et qui partage ça à travers l'humour. Voilà.
Et l'humour, il en a.
Il essaye.
Donc on va suivre cette aventure tout du long, bien évidemment. Vont-ils se retrouver ? C'est en tout cas toute l'équation que l'on va voir durant tout ce film. Le tournage, qu'est-ce qu'on peut en dire, Afzia ? Ça a été tourné où ? Est-ce qu'on a été dans plusieurs pays ? Comment ça s'est passé ?
Alors non, on est resté sur Paris pour des questions de praticité. Ça a été tourné essentiellement, enfin une grosse partie du film, dans le quartier de Belleville. Voilà, quartier assez populaire et cosmopolite. Pourquoi ? Parce que ça me faisait penser à Marseille, donc mes origines. Et que c'est le Paris qui, moi, m'inspire, en fait. Voilà.
Meilleur souvenir de tournage, Afzia ?
Franchement, il y en a énormément. Chaque jour restera inoubliable. Parce que voilà, quand on fait un film comme ça, sans autorisation, sans rien, on va dire un peu hors la loi. En même temps, pour moi, c'est pas vraiment hors la loi, parce qu'on fait pas de mal, on est dans la création. Il y a toujours des surprises tous les jours.
Anthony, ton meilleur souvenir de tournage à toi ?
Probablement le jour où on a tourné la scène du poème avec Afsia et que du coup il y avait une grosse concentration sur le plateau, il n'y avait pas de bruit, alors que d'habitude c'est vraiment les fous rires, on rigole beaucoup. Et là, pour le coup, il y avait une grosse concentration et on voyait qu'on était dans une scène tendue et clé du film. Et c'était super et j'y repense souvent en fait.
Toi, Myriam ?
La scène qui m'a fait le plus rire, c'est lorsque je débarque au travail de Lila en moto. Bah, il fallait dire à Lila que Rémi continuait à m'envoyer des SMS et je vous laisserai découvrir la scène. Et c'est mon meilleur souvenir, vraiment. Puis c'était drôle.
En plus, c'est nous dire.
Ce jour-là. Donc, c'était un peu galère, mais c'était drôle.
Tu mérites un amour, c'est mercredi dans les salles et je peux vous dire que c'est un film qui mérite de l'amour en tout cas. Et je vous remercie infiniment d'être venu nous en parler. Ne le ratez pas, voilà, allez le voir. Moi, c'est ce conseil que je peux vous donner dans toutes les bonnes salles de cinéma en France. Merci à tous les quatre.
Merci
beaucoup. Allez le voir.
Dans un instant, page spéciale Festival de la Fiction Télé de La Rochelle avec Stéphane Strano qui nous rejoint. Alors surtout, ne bougez pas, on revient dans 3 minutes. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Dans 2 jours, s'ouvrira la nouvelle édition, la 21e du nom du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. On sera pour vous tout au long de cette semaine. On va terminer justement cette émission aujourd'hui avec Stéphane Strano, président du festival, qui est avec nous, qui nous rejoint. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nouvelle édition, 21e édition. Alors, il y a eu des nouveautés l'année dernière qui sont reconduites cette année. Un jury présidé par notre Liliane préférée dans Scène de ménage, c'est Valérie Carsenti. Des belles choses et puis surtout un beau bilan de la 20e édition qui laisse augurer de belles perspectives encore pour cette 21e qui arrive.
Merci. La 20e édition a été un grand succès. Elle a été un grand succès d'audience. Beaucoup de projections, de spectateurs, beaucoup d'œuvres à voir, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de signatures sur le port. Ça a été un grand succès. C'était un grand cadeau pour le festival. Et puis, fort de tout ça, cette année, on reprend avec une 21e édition. Donc après l'anniversaire, on s'est mis au travail sur des grands thèmes, on s'est mis au travail à la recherche des meilleures œuvres à travers tout le territoire francophone. Ça comprend évidemment le meilleur de la France, mais le meilleur de tous les continents en langue française. Et puis c'est toute l'Europe qui est représentée, l'Europe extrêmement puissante, variée, diversifiée. C'est un territoire qui est sublime. Et moi, j'invite le grand public rochelais et de toute la région à venir à La Rochelle voir ces œuvres qui viennent d'Europe, voir ce qui va arriver de meilleur en France avec la fiction française et découvrir leurs héros, leurs stars sur le port de La Rochelle simplement pour des séances de dédicaces par exemple.
On a quelque chose de très impressionnant. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est le côté populaire de ce festival. Tous les gens se mélangent sur le cours des dames, discutent avec les acteurs, s'arrêtent, échangent. C'est vraiment un festival bon enfant. Malgré aujourd'hui le nombre qu'on est, 2200 accrédités, plus 35 000 festivaliers l'année dernière. Comment on fait pour arriver à garder justement encore cette âme populaire et aussi accessible ?
Ça, c'est une alchimie rare. C'est une alchimie dont on est certainement pas responsable, même si on est un ouvrier quotidien pour essayer de faire fonctionner cette machine. Je crois que c'est l'alchimie de la ville de La Rochelle, de la communauté d'agglomération, du département, de la région, de vouloir cet événement, de croire que le public a besoin de fiction française, et ça permet cette simplicité, cette grande popularité. Et puis ces stars, elles viennent ici pour entendre les téléspectateurs, pour échanger avec eux. Elles en ont besoin.
Alors un jury, donc présidé, on le disait, par Valérie Carcenti. Elle sera accompagnée d'Alex Beaupin, d'Elodie Frank, qu'on va retrouver. En plus, ça tombe bien, les petits meurtres d'Agatha Christie sont revenus juste vendredi dernier. Donc voilà, je suis sûr que vous allez adorer voir Elodie ici à La Rochelle. Sidney Galonde, grand producteur, qui a été notamment à l'instar d'une adaptation d'un roman d'Arlène Coben pour TF1. François Tron, directeur général des contenus de la RTBF. Isabelle, alors là je te laisse dire le nom.
Chaska.
Voilà, c'est très bien. Réalisatrice, bravo. Et Marie Roussin, scénariste aussi, qui a signé de nombreux scénarios pour la télévision. Les membres du jury sont choisis comment ? C'est qui détermine et qui part justement à la chasse de ces membres de jury, Stéphane ?
Alors, on a à travers l'ensemble du jury l'expression de tous les professionnels, des réalisateurs, des scénaristes, des compositeurs, des comédiens, des comédiennes et puis des professionnels comme François Tron. On a choisi avec Valérie Carcenti dans un échange, et puis le festival a proposé des professionnels qui doivent avoir un regard plein d'amour pour la création, plein de respect pour le travail que ça demande, et qui va à travers la sélection dessiner un palmarès, c'est-à-dire dessiner un chemin pour la fiction.
Alors, 7 téléfilms en compétition officielle, dont notre classe unique qu'on attend avec impatience, qui a été tournée en Charente-Maritime, où d'ailleurs Geoffrey Platel, Clémentine Sellarié, Sam Carman seront présents à La Rochelle. 7 séries de 52 et de 90 minutes, puisque aujourd'hui on a de plus en plus de séries de 52 minutes. Hein, les 90 minutes, plus ça va, moins on en a aussi. Et la série fait la part belle, hein, aujourd'hui dans le monde de la télévision. C'est un genre qui marche de mieux en mieux. On le voit sur les succès des séries quotidiennes, par exemple.
Alors le festival est là aussi pour détromper des grandes tendances, parce que la série est un lieu créatif où on peut faire des chefs-d'œuvre, et en tout cas de très grandes œuvres, et on le voit, on l'a connu, on l'attend. Le festival et la sélection constatent que l'unitaire en France, mais aussi en Europe, continue un chemin tout à fait intéressant. Il ne s'éteindra pas.
Alors il y a du 26 minutes, il y a des programmes courts bien évidemment, il y a aussi des fictions web et digitales, ça aussi aujourd'hui ça fait de plus en plus partie du paysage. Vous pourrez découvrir à La Rochelle aussi la nouvelle mouture de la série Paro Mode d'emploi, qui immigre vers France 3 au lieu de France 2, toujours produit hein, par le duo d'Emmanuel Chin et Guillaume Renouille bien évidemment. Donc voilà, vraiment des nouveautés, des surprises, des acteurs, 12 fictions européennes également. Et puis, bien sûr, ce qu'attendent les gens tous les ans, les fameuses séances de dédicaces. Alors, on y retrouvera par exemple une partie du casting des Mystères de l'Amour le vendredi. Le samedi, toutes les séries quotidiennes seront à La Rochelle, ainsi Grand Soleil. Il y aura Plus belle la vie, dont j'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer le débat avec les fans l'après-midi au cinéma. Il y aura les comédiens de Demain nous appartient samedi matin. Ça va faire du monde, je crois, cette semaine sur le cours des dames. Hein.
Alors ça va faire du monde, et puis on peut déjà le mesurer, parce que à l'heure où nous sommes, on voit bien que les réservations sont au complet et on attend ce que je pourrais appeler un raz-de-marée à La Rochelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont venir cette année, beaucoup de professionnels qui vont venir défendre la profession, parce qu'il y a une réforme de la loi audiovisuelle qui va avoir lieu, et c'est la part politique de notre travail, et puis une rencontre avec le grand public. Une rencontre quotidienne, hein, on les voit tous les jours dans les feuilletons, et ils seront à La Rochelle vendredi et samedi pour rencontrer le public.
Alors les fictions événements, puisque chaque soirée aussi donnera la part belle aux diffuseurs. Comme de coutume, la soirée d'ouverture sera consacrée à M6 qui proposera Un homme ordinaire. Pour Arte, on découvrira la série Mytho. On découvrira le tant attendu Bazar de la Charité pour TF1 et Netflix. La série Laetitia et Les Sauvages pour Canal+. Ça, généralement, c'est le samedi en fin d'après-midi. Avant la cérémonie de clôture, des projections spéciales aussi avec Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, hein, point de festival de la fiction télé, sans un épisode inédit des Petits Meurtres. Et là, ça sera un épisode musical qui sera proposé en avant-première.
Exactement, ça c'est les grandes surprises. Les projections spéciales, c'est un moment de fête où on découvre une œuvre de manière un petit peu magique parce qu'elle est un petit peu particulière. Cet épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie vaut vraiment la peine. Et puis on accompagne ça avec une autre projection spéciale qui me tient à cœur parce que nos amis anglais et inspecteur Barnaby nous permettent une projection en présence de l'équipe. C'est de la télévision anglaise et ils viennent à La Rochelle. On est ravis de les accueillir pour un petit moment de rencontre avec le public.
On s'internationalise, dis-moi.
Et on s'ouvre, on s'internationalise de toutes les manières. Et je vais le dire d'une autre manière, puisque parmi les projections spéciales, on aura un clin d'œil vers le passé avec une projection spéciale des nouvelles aventures de Vidocq. Et je peux dire que par ailleurs, et ça, c'est quelque chose d'absolument international, on a une initiative rochelaise qui nous permet de faire un grand événement autour de Simenon et une projection d'une adaptation d'un film de Simenon. Et je trouve que la force du festival, c'est d'aller puiser très très loin à l'international, mais aussi à La Rochelle.
Alors, j'ai une petite indiscrétion aussi à vous livrer quand même, hein, pour les fans de Plus belle la vie qui seront avec nous samedi. Vous aurez la projection d'un épisode inédit, mais en plus, eh bien, la production va vous ramener les premières minutes du prime time spécial des 15 ans. Il n'est pas fini de monter, mais ils vont vous ramener les premières images. Donc, pour ceux qui veulent voir les premières images de ce prime time inédit, rendez-vous samedi après-midi pour cette projection spéciale. Tu vois, ça, c'est ma petite indiscrétion à livrer en plus. Donc, vous l'avez compris, des événements. Est-ce qu'on a quelques noms à donner de personnalités qui seront ici à La Rochelle? Est-ce que tu as une petite liste à nous livrer?
On attend Marina Hans, Arnaud Ducret et Émilie Dequesne, Julie de Bonnat, Camille Lou, Audrey Fleurot, Samuel Labarthe, Blantine Belavoir, Antoine Duléry, Clémentine Sélarier, Cad Merad, Fred Testo, Jonathan Lambert, Nicolas Gob, Thierry Neuvik, Lindan Pham, Louise Monod, Oratico. Entre autres.
C'est pas mal, plus le jury, plus tous les comédiens de vos séries quotidiennes. Vous l'avez compris, le rendez-vous est pris, en tout cas, ça démarre mercredi sur le port de La Rochelle. C'est l'événement qu'il ne vous faut pas rater, c'est le festival de la fiction télé. Si vous êtes de passage ou dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Une chose est importante, toutes les projections sont gratuites. Ça, c'est important de rappeler.
Merci et bon festival.
Bon festival et puis on se dit à mercredi.
À mercredi.
Allez, plein d'aventures et bien sûr, ça sera à suivre sur notre page Facebook Chute en écoute la télé, sur notre application sur Android Chute en écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute en écoute la télé.
Et donc lundi prochain, eh bien nous allons vous consacrer une émission spéciale Festival de la fiction télé de La Rochelle avec les réactions exclusives des lauréats, des surprises, des invités, des indiscrétions évidemment sur de la fiction télé sur toutes les chaînes. Et puis nous aurons le plaisir aussi de recevoir eh bien toute l'équipe de La Malédiction du Volcan, le téléfilm qui sera diffusé bientôt sur France 3 à cette occasion. Seront avec nous Catherine Jacob, Ambroise Michel, Philippe Carrois qui seront nos invités exceptionnels évidemment pour nous parler de cette fiction événement. Rendez-vous donc lundi prochain, spécial Festival de la Fiction Télé et La Malédiction du Volcan.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Moi je vous retrouve demain sur Zoom Radio à partir de 10h45 et 12h30 pour les quotidiennes. Pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé, on se retrouve lundi prochain dès 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et à demain.
Chute on écoute la télé avec votre jardinerie Ast Vert, votre spécialiste en négoce de noix pour particulier en paiement comptant à Saint-Astier.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Dordogne sur mariemorin.fr.